Bonjour amis auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Kardec, la radio spirite de la francophonie. La fin de l'hiver arrive à grands pas, nous allons sortir de notre morosité hivernale. Pour mettre en action notre éveil printanier, je vous propose d'aborder aujourd'hui, dans ce podcast, une loi universelle, la loi de cause à effet, selon le spiritisme. Pourquoi certaines personnes semblent-elles vivre des épreuves difficiles, tandis que d'autres semblent avoir une vie plus facile? Est-ce le hasard, une injustice? Ou existe-t-il une loi morale qui relie nos actes à leurs conséquences? Dans la philosophie spirite codifiée par Allan Kardec, cette loi montre que rien dans notre existence n'est arbitraire. Chaque pensée, chaque action produit une conséquence. Il faut tout d'abord dire qu'Allan Kardec n'utilise pas l'expression « loi de cause à effet » en 1857, mais il la développe à travers la justice divine, la responsabilité et les réparations. Si nous approfondissons en allant chercher la définition de cette loi, elle signifie que toute action a une cause qui produit une conséquence dans cette vie ou dans une autre. Elle décrit l'impact d'un choix, d'une action, d'une décision, d'un comportement, d'une attitude et la manière dont cela se manifeste dans notre monde. L'objectif aujourd'hui est d'offrir des repères pour comprendre, apaiser et donner du sens aux expériences sans culpabiliser. Cette loi n'est pas une punition divine, ni une récompense arbitraire, mais un mécanisme d'apprentissage et d'évolution de l'âme. Dans le livre des esprits, on apprend que l'esprit progresse à travers ses expériences et ses choix. Allan Kardec nous dit que pour arriver à la perfection, il faut subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. L'esprit, avant de s'incarner, a choisi les épreuves qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Les faits et les détails sont la conséquence de la position et souvent de nos propres actions. La loi de cause à effet agit à plusieurs niveaux. Dans nos pensées, dans nos actes, chaque action génère des conséquences naturelles. La bienveillance crée de l'harmonie, la violence génère souffrance et déséquilibre. Il nous faut différencier les conséquences immédiates et différées. Ainsi, dans l'Évangile, selon le spiritisme, Kardec nous dit que tout effet a une cause. Toutes nos misères sont des effets qui doivent avoir une cause. Et dès lors que l'on admet que Dieu est juste, cette cause doit être juste. La cause peut être d'une vie passée, et l'homme n'échappe pas aux conséquences de ses actes. Si nous acceptons et comprenons cette loi, nous trouverons plus de sérénité et de paix face aux épreuves. À travers les existences successives, le spiritisme explique que certaines situations peuvent être liées à des expériences passées, ce qui nous ramène à la notion de réincarnation. Rien ne se fait sans un but intelligent, et quoi que ce soit qui arrive, chaque chose a sa raison d'être. Chacun porte en lui-même les effets de ce qu'il a cultivé. Les épreuves de la vie sont souvent des occasions de réparer, d'apprendre et de grandir. Nous allons nous retrouver face à des conflits. Nous allons rencontrer des sentiments négatifs comme la jalousie, la colère, l'avarice, l'incompréhension, la sensualité. Nous y rencontrons aussi les ruptures, mais aussi la maladie. Que viennent-ils nous apprendre? Les épreuves ont pour but d'exercer l'intelligence, aussi bien que la patience et la résignation. Un homme peut naître dans une position pénible, précisément pour l'obliger à chercher les moyens de vaincre ses difficultés. La loi agit par conséquence, non par châtiment. Chaque fois que nous choisissons le bien, nous modifions les causes et transformons les effets futurs. Les vicissitudes de la vie ne sont pas toujours la punition des fautes actuelles. Ce sont des épreuves imposées par Dieu ou choisies par nous-mêmes à l'état d'esprit et avant notre réincarnation pour expier les fautes commises dans d'autres existences. Toutes nos actions sont soumises à la loi de Dieu. Nous sommes les propres artisans de notre bonheur ou de notre malheur. La fatalité n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive est induit par nos actions, nos erreurs et nos défaillances. Le Christ nous demande de nous aimer les uns les autres. Nous devons mettre en pratique cet enseignement. Nous devons transformer nos causes aujourd'hui pour améliorer nos effets de demain. Un enseignement juste et porteur, car l'amour transforme tout. En conclusion, la loi de cause et effet n'est pas une loi de punition, mais une loi d'amour et de justice. Elle nous rappelle que nous sommes les artisans de notre avenir et que chaque geste de bonté est une semence de paix pour demain. Ce que nous semons aujourd'hui devient la récolte de demain. Maintenant, je vous invite à écouter une causerie de Régis Verhaeghen du CESAC de Bruxelles. Écoutons.
Si on prend la vision d'il y a quelques décennies de la vie, de la création de la vie, de notre création, notre âme était créée au moment où le fœtus commençait à naître dans le ventre de la maman, selon des idées de certaines religions, de pas mal de religions en fait. Au moment où le corps commençait à naître, à se créer, l'âme se créait aussi. Elle était créée par Dieu et confiée aux parents pour vivre ici sur Terre une petite centaine d'années et puis continuer à l'infini. Et là, les descriptions varient un peu selon les religions. C'était quoi ce qu'on faisait de l'infini et selon ce qu'on avait fait sur Terre, etc. Et donc, les parents, le père, mais surtout la mère, étaient vus comme un peu un co-créateur de l'être qui allait vivre pour l'éternité. Le catholicisme, par exemple, a mis très en avant la maman de Jésus, alors que, en fait, dans la Bible, elle ne fait pas grand-chose. Mais on l'avait mise très très en avant pour qu'elle serve de modèle et qu'elle ait cette idée-là d'un être spirituellement très élevé avec beaucoup de bien, etc. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui apprécient beaucoup cette personne qui, depuis, même si pendant la vie de son fils, elle n'a pas eu un grand rôle spirituel, depuis a travaillé énormément et un être bien, bien, bien plus élevé que nous ici. Donc ça, c'est la version de beaucoup de religions, notamment du catholicisme. Et puis, on a aussi la vision matérialiste, arrivée un peu plus tard, où l'âme, si tant est qu'elle existe, était créée au moment où l'être arrive au monde, et que les parents étaient en quelque sorte les créateurs, les interactions physiques, moléculaires, cérébrales, etc., neurologique, créer la personnalité qui s'arrête au moment de la mort. Et donc une vision bien plus courte, et des parents avec un pouvoir créateur bien plus grand. Et puis il y a le spiritisme, qui n'était pas le premier à avoir cette idée, hein, on n'a pas inventé grand-chose quand on y réfléchit, et arrivé avec une idée différente. En fait, ce n'est pas le spiritisme, c'est les spirites qui ont demandé aux esprits « Tiens, comment ça se passe ?» Et les esprits ont expliqué que l'âme existait déjà depuis longtemps, avait parcouru les millénaires, les millions d'années, en passant de vie en vie, en évoluant à chaque incarnation. Et que donc elle venait, cette âme, s'incarner ici sur Terre. Que quand le corps se créait dans le ventre de la maman, l'âme était déjà là avant, parfois déjà prête, et qu'elle s'intégrait au fur et à mesure avec le corps pour, au moment de la naissance, pouvoir utiliser, faire bouger ce corps, etc. Que l'esprit, en s'incarnant, perdait la mémoire, perdait ses facultés, et était prêt à de nouvelles expériences avec un peu une feuille blanche, ce qui, souvent dans nos vies, on en rêve un petit peu de se dire « Ah, si j'avais l'opportunité de ne pas faire la même bêtise, de recommencer, si j'avais encore une chance avec telle ou telle personne, ce serait tellement bien. » Et du coup, il y a la durée de l'incarnation, une petite centaine d'années, et à la fin, l'âme continue pour l'infini. Elle va encore se réincarner plusieurs fois, ici, ailleurs, et évoluer. Et du coup, il y en a pas mal qui ont conclu avec cette idée du spiritisme, de dire, mais il n'est pas rond dans l'histoire, il ne crée plus rien. Enfin, il crée le corps, mais c'est moins bien, c'est moins. Et ils ont dit que le spiritisme détruisait l'idée de famille. Parce que ce qu'on avait dans nos familles ici sur Terre, c'était finalement juste un épisode, quoi. C'est comme si on regarde un épisode d'une série et puis, voilà, autre chose, quoi. Et la critique, c'était que le spiritisme détruisait l'idée de la famille. Et les spirites, parce qu'ils aiment bien poser des questions, ils ont demandé aux esprits en disant « Est-ce que ça détruit l'idée de la famille ?» Et les esprits, ils ont dit « Attendez, attendez, on va vous expliquer un peu mieux, un peu plus profondément, parce qu'en réalité, ça va l'agrandir, l'étendre, rendre la famille beaucoup plus grande et surtout beaucoup plus durable. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. La plupart des gens ont vécu une expérience de rencontrer quelqu'un et qui est tout de suite une alchimie, qui est tout de suite un contact, une personne qui devient probablement un meilleur ami ou quelqu'un de très très proche, comme si on se connaissait déjà. Et en réalité, on se connaissait déjà. On va parler un petit peu de la préparation réincarnatoire. En fait, si on a les capacités de le faire, c'est-à-dire si on n'est pas trop perturbé, on prépare nos vies. De l'autre côté, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Avec qui? Avec qui est-ce que j'ai des dettes? Avec qui est-ce que j'ai envie de recommencer des trucs si j'ai l'autorisation, si je peux? Et donc, on va préparer tout ça avec des gens, si on prend une comparaison du monde présent, avec des gens de qui c'est le métier, qui vont nous aider à bien choisir, parce que c'est vraiment pas un choix difficile et que on s'engage quand même pour centaines d'années, c'est pas rien. Donc, ils vont nous dire, non, là, tu veux faire bien, mais t'as pris trop d'épreuves, on va quand même te laisser les deux bras, te dire, voilà, t'auras une petite arthrose, ça sera difficile, mais les bras, quand... c'est trop dur si on t'enlève les deux bras. Et puis, oui, non, tous ces problèmes, on va t'enlever un petit peu. Il faut être raisonnable. Si tu vas pas tenir et si tu es motivé, mais sur Terre, tu te rappelles de rien. Il y a plein de problèmes, plein de tentations. Donc, voilà. Et du coup, quel serait l'intérêt de revenir avec des inconnus? Pourquoi est-ce qu'on reviendrait avec des gens qu'on connaît pas? Si on a eu une difficulté avec quelqu'un, ou quelque chose qu'on a regretté. Alors on se dit, remets-moi avec cette personne, j'ai un truc à régler là. Si on a une dette envers quelqu'un, s'il y a quelqu'un qu'on aime bien, en disant, cette personne-là, s'il te plaît, je veux continuer encore. Donc ça n'a aucun intérêt de revenir avec des gens qu'on ne connaît pas. Imaginez un père, comme beaucoup d'histoires de parents. C'est pas le meilleur parent de la Terre. C'est pas le meilleur père. Il a une petite fille et il s'en fout. Il travaille beaucoup, il aime bien faire la fête. Le soir, il voit jamais sa fille. Et ça crée des soucis. Et avec les années, le père mûrit et regrette. Sa fille, il en veut. Sa fille a des problèmes parce que la présence des parents, elle est essentielle pour grandir. Et il regrette. Il fait, purée, j'ai vraiment pas été un bon père. Il essaye de réparer pendant l'incarnation, mais il y a un mal qui a été fait et il n'arrive pas à refaire aussi bien la relation qu'il voudrait. Finalement, il meurt sans voir sa fille et il regrette terriblement. Il arrive de l'autre côté et il fait « Je veux réparer, s'il vous plaît. » Il s'inscrit à des cours de bon père et on lui dit « Écoute, il y a aussi une loi de cause à effet. Là, maintenant, t'as envie de réparer, mais on te remet dans la même situation, il y a des chances que tu refasses pareil. T'as pas compris profondément la valeur. Du coup, tu vas passer une vie avec un papa absent. Tu vas passer une vie où tu n'auras pas l'opportunité d'avoir des enfants, malgré ton envie. Par exemple, aux époques plus reculées, de se dire, bah, tu vas naître stérile. Tu ne vas pas pouvoir faire des enfants. Et c'est qu'une prévision, hein. Il y a toujours moyen d'échapper à ce qu'on avait prévu. Et du coup, le père, il renaît, etc. Et il croit sa fille. Et il a une affection qui n'est pas un désir, mais une affection très très grande pour cette personne qu'il croise. Mais l'inverse n'est pas vrai. La fille qui a une antipathie, instinctivement, elle a non, je veux pas une distance. Et le père passe sa vie, etc. Et puis, la vie suivante, on lui dit, maintenant tu as mérité d'avoir de nouveau ta fille. Et il renaît. Et c'est pas une relation facile parce que la fille, elle a toujours l'antipathie. Mais le père est patient. D'avoir une fille très agitée qui fait plein de bêtises, il a une adolescente complètement énervée, fâchée, etc. Et pourtant, le père est patient. Trop patient, peut-être. Mais au fur et à mesure, avec beaucoup de patience, il répare cette relation. Et puis, arrivé à l'âge adulte, quand la fille grandit, quand la fille voit tous les efforts de son père, va probablement voir un psychologue de pourquoi est-ce qu'elle le traite si mal, etc. Ils finissent par bien s'entendre et s'aimer profondément. Et une fois que tous les deux sont morts, s'il vous plaît, on peut revenir ensemble, on était bien. Et Abironès, en tant que frère et sœur, en tant que voisin, en tant que compagnon, compagne. C'est choquant pour nous, mais c'est oublié le passé, donc pourquoi pas? Et donc, cette histoire que je viens de vous expliquer, il y a 4 ou 5 réincarnations. On est déjà à 600 ans, 1000 ans, peut-être plus. Toujours avec la même famille. Des fois dans la même famille de corps, des fois pas. Des fois avec des relations qui se passent bien, des fois avec des relations qui se passent moins bien. Des fois avec des choses qui nous tombent sur la tête. Où on raconte aussi sur le divan d'un psy, de dire mais c'est tellement injuste, alors qu'au fil des siècles, en fait, c'est pas que c'était pas injuste, c'était qu'on avait besoin de ça. Et donc, dans le monde spirituel, se forment des familles, mais des familles plus larges que nos familles à nous, de frères et sœurs, parents-enfants, mari et femme, peut-être oncles, cousins s'ils sont proches, mais dans le monde spirituel, c'est plus large. C'est tous nos proches, tous ces gens avec qui on parcourt les siècles, comme ce père et sa fille qui là sont depuis 1000 ans ensemble et qui vont continuer des milliers d'années encore ensemble. Et ils forment des groupes. Et ce qui est fascinant, c'est que ces groupes s'entraident parce qu'il y en a qui évoluent plus vite, il y en a qui évoluent moins vite. Il y en a qui ont l'opportunité de quitter un monde comme le nôtre qui est assez dur et ils disent non, non, il y a toute ma famille encore. Oh non, non, il y a le petit Stéphane, le retardataire, on part pas sans lui. 600 ans, pas de problème. 600 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il y a du travail, il y a du bien à faire. Peut-être on réincarne pour être missionnaire, peut-être on fait notre travail dans le monde spirituel, mais on ne part pas sans la famille. Ça n'a pas de sens. Et chaque fois qu'il y en a un qui décède, c'est la fête. Ici, on est triste. Là-bas, c'est vraiment ouh, on retrouve notre meilleur ami, notre fils qui était notre mari, qui était notre frère, qui était notre meilleur ami une autre fois. Et peu importe. C'est le cas aussi des anges gardiens. On imagine les anges gardiens comme des êtres élevés, éloignés. En fait, non. C'était notre grand-père, notre maman, notre meilleur ami de la vie d'avant qui a fait, ok, cette vie-là. Toi, tu vas naître, moi je fais support émotionnel pendant 83 ans. Et c'est un engagement gigantesque. Vous imaginez, vous signez un contrat de travail, 83 ans, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas disponible 24 heures sur 24 pour veiller sur une personne qui la plupart du temps ne vous écoute pas. L'engagement que c'est beau. Et donc, c'est quelqu'un plus ou moins à notre niveau, avec qui on s'entend très 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 bien. Le père et la fille, là, c'est exactement le genre de truc qui donnent un ange gardien et son protégé, et qui vont s'entraider. Et là, j'ai donné des exemples de belles relations, mais c'est la même chose avec les relations lourdes. Quand on sait disputer avec quelqu'un, mais de ces disputes graves, on garde profondément dans le cœur. Meilleure technique, frères et sœurs. Vous savez, si vous avez des frères et sœurs, il y a peut-être des enfants uniques, mais ceux qui ont des frères et sœurs, ils savent que c'est rarement l'amour fou depuis la naissance. Ça arrive, hein. Mais bien souvent, c'est plus la dette du passé, parce que ce type de lien, au moins jusqu'à devenir adulte, on va être tous les jours avec. Et on va, parce qu'il y a des normes de société, etc., on va faire le maximum pour quand même y arriver, en disant, bah, c'est ton frère, c'est ton père. Alors bien sûr, je ne veux pas dire que s'il s'est passé des trucs vraiment graves, on doit cohabiter avec des gens à qui il y a eu des faits graves. Ce n'est pas forcément ça le travail à faire. Mais souvent, en fait, on se dispute beaucoup quand on est enfant, adolescent, peut-être une partie de l'âge adulte, et puis avec les années, on finit par s'aimer. Alors que si on se rappelait du passé, si on se rappelait des disputes, des choses graves qu'on s'est faites, ce serait difficile. Et donc, quand on a des regrets, quand on a par exemple un père ou une mère qui décède et on se dit « j'aurais dû être plus là, j'aurais dû aller la voir plus souvent, j'aurais dû régler ce problème bête qui n'est pas si important, mais c'est trop tard. » Non, c'est pas trop tard. Elle est toujours vivante, il est toujours vivant. C'est pas la fin, c'est jamais la fin. La famille est bien plus grande qu'on le pense. C'est pas seulement les liens du sang. Et parfois, on se sent étranger dans nos familles et très très proche d'autres personnes. Parce que parfois, on a besoin de réincarner avec des gens qu'on connaît moins pour des raisons X ou Y. C'est pas des frontières fixes, quoi. Les frontières sont un peu poreuses, les familles sont un peu comme des nuages qui se mélangent les uns aux autres. Puis un nouvel arrivant qu'on adopte dans la famille, et puis la deux familles, etc., etc. Comme dans la vraie vie. Mais il faut savoir que dans notre famille, il y a des gens qui n'ont aucun lien de sang avec nous. On a probablement tous une ou l'autre personne en tête, c'est-à-dire... Ah. Et que donc cette personne, on la connaît peut-être depuis des millénaires et on continuera à la côtoyer pendant des millénaires. Et c'est le cas aussi des liens difficiles, où tout simplement il y a un travail à faire. Un travail qui peut être long. Peut-être qu'on n'y arrivera pas dans cette vie-ci. Peut-être que la vie prochaine, ce sera nous, la fille, qui regarde la personne en disant « Ah non !» Et que la vie suivante, ce sera... Nous, l'enfant rebelle qui a un instinct comme ça d'être agressif. Il y a parfois ça avec les enfants. Tout le monde fantasme le lien entre les parents et les enfants, comme si on voyait cet enfant et on tombait amoureux. C'est pas le cas de tous les parents. Et les parents qui tombent pas amoureux, qui voient l'enfant, ils s'en veulent beaucoup. Mais c'est en fait juste quelqu'un qu'on connaît déjà. Quelqu'un avec qui on a un travail à faire et un travail qu'on a choisi avant de naître, mutuellement. C'est pas que nous qui avons choisi l'enfant difficile. L'enfant difficile, on nous a choisi aussi, en fait. On va y arriver. Et les esprits qui préparaient, ils étaient là. On va voir. On va vous aider. Ça va pas être facile. Et du coup, simplement, pour terminer, j'aimerais qu'on réfléchisse tous à notre famille réelle, à ses membres. Il y a qui dans notre famille spirituelle, notre famille réelle? Et au fond, qui est-ce qu'on ferait bien d'appeler? Chez qui on devrait aller dire bonjour?
Nouvelle rubrique de Rencontres Spirites. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'Amandine, qui a répondu à la question « Comment es-tu devenu spirit ?» Écoutons. Sandine, très heureuse de te retrouver. C'est un peu toujours le mot que j'emploie à chaque fois que je commence une entrevue comme ça, parce que c'est vrai que ce sont des gens que je te connais. On a un parcours, puisqu'on est rentré un peu dans ce chemin spirit ensemble. On a fait du covoiturage. On a quand même un parcours ensemble qui a été très, très, très bien en enseignement, parce qu'on a beaucoup appris l'une de l'autre. Et aujourd'hui, donc, je suis très contente de te retrouver pour que tu viennes nous donner ton témoignage sur ton parcours. Comment es-tu devenue spirit? Donc, je te laisse la parole. Peut-être présente-toi un peu si tu en as envie. Et à toi.
Bonjour Myriam, bonjour à tous. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. C'est un honneur de pouvoir partager mon expérience qui est peut-être un petit peu différente ou un petit peu pour ma part hors du commun. Alors moi, je m'appelle Amandine, je travaille dans le milieu hospitalier depuis plus de 20 ans. C'est une passion, une vocation, je dirais. Depuis toute petite, pour ma part, alors, je suis née dans une famille qui, on va dire, sont plutôt terre à terre, très cartésien. Et depuis que je suis, on va dire, 2 ans ou 3 ans, je me sens différente, c'est-à-dire je vois et je vis des choses que personne n'a su me donner de réponse. Par rapport à tout ce que j'ai ressenti et toutes mes visions. Toute mon enfance, j'ai voulu aider les autres sans avoir... pardon, parce que mon ordinateur, il voulait me faire un nettoyage. Je dirais que toute mon enfance, je me suis toujours sentie rapprochée, alors, entre guillemets, de l'humain. J'ai toujours voulu aider les autres sans presque rien demander au retour, puisque j'avais 5, 6, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans. J'ai toujours eu cette empathie puissante, je dirais, en moi. Ma difficulté que j'ai vécue petite, c'est que je me sens connectée aussi à l'autre monde, un monde invisible, mais pas toujours positif. Je suis, depuis toute petite, j'ai des visions de noir,
D'ombre, ouais, de l'ombre.
Ouais. C'est-à-dire, d'une seconde à l'autre, je pouvais être très heureuse et après, je pouvais être très triste avec des idées suicidaires sans comprendre d'où elles venaient ou des colères très puissantes. Je n'ai jamais compris, puisque je n'ai jamais pu échanger avec soit un membre de ma famille ou soit des amis, sauf ma meilleure amie Laetitia, qui, c'est elle justement, j'ai pu tenir, je dirais, grâce à elle. Mais oui, je pense qu'il y a toute une partie d'ombre qui m'a suivie dès ma naissance et je n'ai pas trop su pourquoi. Et j'ai dû grandir avec. Voilà, ma particularité, elle vient de là. C'est que depuis toute petite, je fais des rêves et je vois, en fait, je pense que j'ai une clairvoyance à travers mes rêves et je vois beaucoup de choses et de l'intuition. Voilà. Donc à 12 ans, j'ai voulu devenir dans le milieu médical. Alors, personne n'y était dans ma famille et déterminée à le devenir. Donc, je le suis avec toutes les difficultés que j'ai pu avoir. Et quand j'ai eu mon enfant, mon premier enfant à 27 ans, j'ai voulu rentrer dans une école en Suisse de médium, parce que c'est la seule école que j'ai trouvée à l'époque. Et quand je me suis inscrite, ils ont annulé l'inscription par manque d'inscription, donc l'univers qui nous envoie des signes. Et après, j'ai abandonné l'idée, je me suis mise au sport extrême durant plusieurs années et cette idée de re-rentrer dans une école est revenue quand j'ai eu ma deuxième fille, ou du moins j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et là, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé cette école à Lyon. Donc, l'école de Allan Kardec à Lyon, une école de médium, parce que je voulais enfin avoir des réponses comparées à tout ce que je vis depuis toute petite et que je n'ai jamais pu échanger parce que quand j'ai changé, les personnes n'arrivaient pas à me suivre, très souvent. Donc, c'est à partir de là où je me suis inscrite à cette école et au départ, je suis allée toute seule à l'école et c'est là où j'ai rencontré Myriam, Nancy, Daniel. et on a partagé des magnifiques moments durant. Donc moi, je me suis arrêtée à la deuxième année parce que ma fille a eu des problèmes de santé et c'était difficile entre le travail, l'école et ma fille. Et voilà, mais j'ai continué à poursuivre à ma manière de mon côté grâce à Myriam, tous ces échanges et ces apprentissages donc de l'école d'Allan Kardec, une école spirit, que je connaissais pas du tout parce que quand je suis arrivée, je pensais rentrer dans une école de médium où on pouvait parler tout simplement de la médiumnité et en fait, j'ai découvert Allan Kardec à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette philosophie?
Des réponses. Un regard nouveau sur la vie. Enfin, je dirais pour moi, c'est une liberté. Enfin, des réponses. Quand on vous explique grâce au livre des esprits, que j'ai lu à deux reprises parce que difficile, je me suis dit, je comprends mieux mes visions, je comprends mieux toute cette ombre hein, qui me suivait de très très près. Je comprends mieux aussi mes absences, je comprends mieux beaucoup de choses. Oui, des réponses.
C'est très fort. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ton témoignage et qui n'ont toujours pas encore de réponse. Et c'est un peu le but de ces échanges. Donc, quel a été le moment ou l'expérience qui a marqué le plus ton cheminement?
C'est grâce à toi, Myriam. Quand on rentre dans cette philosophie, je dirais bien une philosophie, c'est très important ce mot, parce que elle peut être très souvent mal interprétée, puisqu'elle est peu connue. Donc, vous savez, quand c'est peu connu, eh ben, c'est mal interprété. Et chez nous, c'est une philosophie, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle le libre arbitre. Et on peut décider ou pas de suivre ce chemin. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que quand on échange avec d'autres personnes qui sont spirites, ils vous disent à ce moment-là, ça serait bien que tu peut-être réfléchisses à ce chemin, mais si tu n'es pas prête, ce n'est pas grave, c'est juste pas le moment. Ce que j'ai aimé le plus, c'est ce qu'on appelle la cause à effet. Pour moi, ça a été une révélation où j'ai compris beaucoup de choses. C'est-à-dire, le regard sur ma vie a totalement changé. Ma partie d'ombre qui me suivait était aussi liée à ma colère, parce que vous savez que quand on est médium, on a une vibration. Cette vibration qu'on émet, eh ben malheureusement, elle va affecter ce monde invisible qui nous frôle, c'est-à-dire ce sont deux mondes qui vivent côte à côte. Mais si on a une vibration qui est plutôt négative, donc on va attirer tout le reste qui est négatif aussi à côté. Et cette causalité, c'est-à-dire la cause à effet, je l'ai beaucoup étudiée. J'ai observé et je l'ai mise en pratique pour ma part et uniquement pour ma part. Et c'est là, pour moi, le cheminement le plus important, c'est que ça m'a permis de comprendre qui j'étais moi. Elle m'a permis de comprendre les difficultés qu'on vivait n'étaient pas difficultés, mais des épreuves. Et que si on était capable de pouvoir comprendre ces épreuves, eh ben, on pouvait comprendre notre objectif de vie. Et c'est ça le plus important parce que je le redis, on a le libre arbitre, c'est vrai, on a le libre arbitre, c'est important. Et quand on comprend quel chemin on souhaite prendre, eh bien, ce libre arbitre, il est plus facile et on peut y mettre des objectifs. C'est-à-dire, on n'est pas mené par notre mental, mais on est plus mené par, pour nous médiums, il faut plus être mené par, il faut, j'aime pas le mot il faut, mais nos intuitions.
Donc, du coup, comment le spiritisme influence-t-il ton quotidien, tes décisions ou ta façon de voir la vie? Tu y as un peu répondu,
Voilà.
mais c'est en ça que cette façon d'aborder la vie, cette façon de, par le spiritisme, de comprendre les épreuves que tu avais, t'ont permis de changer complètement tes pensées. Plutôt que d'être du côté négatif et de se dire j'ai pas de chance, etc., tu as compris qu'il y avait une raison à ça. Et ça change tout.
Tout à fait. Je dirais qu'entre la personne qui s'est inscrite à l'école, tu te souviens Myriam, ou la toute première fois qu'on s'est vu, et maintenant, j'ai l'impression d'être deux. En fait, c'est deux étapes de ma vie différentes.
C'est ça.
Deux Amandines différentes. Oui, tout à fait. Je dirais que ça m'a permis d'avoir un regard plus léger. Une fois que vous comprenez que tout ce qui se passe, ce sont des épreuves et ça permet déjà de désactiver le mental ou de le diminuer, hein, tout simplement. Et ça permet une meilleure compréhension de la vie.
De notre existence. Donc, du coup, quand tu es devenu spirite, ce parcours spirite, Comment ta famille a-t-elle accepté ce changement?
Alors, je dirais que, comme je l'ai dit au départ, c'est pour ça que j'ai commencé par ma famille, c'est très important. Je dirais que ma famille ne s'y est pas intéressée. Ils me voient comme le professionnel de santé que je suis, tout simplement. Ils ne s'intéressent pas, ils ne me posent aucune question. Ils savent toujours que je suis un peu différente et que j'ai un regard sur la vie qui est différente, mais non, je pense qu'ils parlent, mais pas derrière, sur moi, mais ils ne me posent aucune question devant. Je dirais que c'est pas ma famille le plus important, c'est moi. Parce que moi permet que l'unité soit, permet qu'on donne une vibration positive à nos proches, c'est-à-dire mes enfants, conjoints. Après, ma maman, bah, qui est portée disparue, qui est plus là, pardon, hein, qui est disparue, m'a permis, elle aussi, d'avancer et d'accepter cette étape, aussi difficile qu'elle soit à ce moment-là, et de continuer à vivre sereinement. Et ça, c'est le plus important.
Oui. Et alors, y a-t-il un enseignement ou une leçon spirite qui t'accompagne particulièrement et que tu aimerais partager? Quand tu te lèves chaque matin, quelles sont tes pensées?
Alors, celle qui m'accompagne le plus, c'est que j'ai modifié totalement mes pensées. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, une fois que vous êtes spirite, en fait, vous comprenez plein de choses de la vie, et c'est-à-dire, elles sont différentes. C'est-à-dire, tout le matériel, eh ben, il devient pas inutile, mais c'est une énergie. Voilà, l'argent est une énergie. Le plus important, c'est soi, et c'est ce qu'on peut donner aux autres, transmettre aux autres. Donc, ce que je pratique tous les jours, c'est cette pensée positive et de me dire, ben voilà, l'enseignement spirit nous a donné des, ben voilà, on est enseigné, ça, on nous enseigne des choses, et ben à nous d'enseigner les autres. Donc, tous les matins, ce que je fais, c'est dès que je peux aider quelqu'un, j'aide. Dès que je peux transmettre un enseignement, je le transmets à travers cette pensée positive, à travers cette loi de cause à effet, à travers nos 10 lois universelles. Voilà, elle est là. C'est ça là, c'est-à-dire par des intentions et des prières.
Et la prière est très importante aussi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui écoute l'émission et qui hésite encore à franchir le pas?
Dans l'apprentissage des esprits que nous donnent les esprits supérieurs, ils nous disent, réaliser un choix, c'est pas grave. Alors, prendre une décision, c'est important. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ce n'est pas grave. Le plus important est de prendre une décision. Si elle est bien, l'univers vous montrera qu'elle est bien et vous serez sur de bons chemins et vous arriverez à des bonnes choses. Si elle n'est pas adaptée, à vous de changer de main, de changer de chemin car vous êtes capable de pouvoir faire. Je dirais que ce n'est pas grave si vous ne prenez pas la bonne décision. Le plus important est d'en prendre une. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris d'Alain Kardec, c'est qu'avant, quand on est humain, entre guillemets, souvent on veut contrôler. Vous savez, la décision parfaite, plaire à tout le monde, plaire à la famille, plaire aux amis, rentrer dans la case, c'est un peu ce que j'ai vécu par rapport à ma famille. Et bien, grâce à Alain Kardec, j'ai appris à m'affirmer et à me dire, ben voilà, moi en tout cas, être spirit, je suis en accord avec moi, je suis heureuse et ça m'a permis d'avoir un regard complètement différent de la vie. Je me sens beaucoup plus sereine et je dirais, je me sens libre, enfin.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. J'espère que certaines personnes qui vont écouter vont prendre conseil et sortir de ce schéma négatif dans lequel on est enfermé quand on n'a pas les bonnes réponses. Et en ça, notre philosophie est là pour ça, pour nous donner la réponse à ce que l'on cherche. Et je pense qu'on a un peu tous le même parcours d'avoir à un moment donné été confronté à des questions où personne ne pouvait répondre. Et aujourd'hui, tu en fais partie, tu as donné ton témoignage et ça a peut-être répondu à certaines personnes et à certaines questions. Donc je te remercie beaucoup, Amandine. Je te souhaite eh ben, un bon parcours encore. Et si tu veux donner le dernier mot, le mot de la fin.
La croyance est en vous, c'est le plus important.
Ben, je te remercie beaucoup. Je te dis au revoir, à très bientôt.
Rubrique info des centres spirites. Le NECAFLA de Bruxelles vous propose des cours en ligne. Pour les inscriptions, envoyez un mail à info@necafla.be. Le coordinateur du cours prendra contact avec vous. Le mouvement Spirit francophone vous propose des cours dans une nouvelle session. Inscriptions et renseignements sur info@lmsf.org. L'Asso Kardec vous propose le livre du mois, La grande énigme, Dieu et l'univers de Léon Denis. Aux heures pesantes de la vie, aux jours de tristesse et d'accablement, ouvre ce livre. Point écho des voix d'en haut, il te donnera le courage, il t'inspirera la patience, la soumission aux lois éternelles. Vous trouverez à l'Asso Kardec les cinq livres de base du spiritisme d'Allan Kardec, le livre des esprits, l'évangile selon le spiritisme, le livre des médiums, le ciel et l'enfer et la genèse. N'hésitez pas, il y en a pour tous les goûts et en plusieurs langues. La revue Spirit est une revue qui a été fondée par Allan Kardec en 1858. Le numéro du quatrième trimestre 2025 est expédié aux abonnés. Le dossier de ce numéro porte sur la journée Allan Kardec à Tours en octobre dernier. Vous y trouverez un article sur l'accompagnement des malades en fin de vie, des conférences de Léon Denis à Lyon en 1887, une rubrique de la revue Spirit belge, Spiritualisme moderne, un article de Claudio Sino sur le thème « Grandir par l'amour ou par la douleur ». Un entretien familier d'une séance d'aide aux esprits souffrants, un commentaire du livre Notre pain de Chico Xavier par l'esprit Emmanuel, des mots croisés, une bibliographie de Michael Ponsardin et des nouvelles concernant le mouvement Spirit. Vous trouverez dans ce numéro le bulletin d'inscription pour le 26e symposium pour la francophonie. Je vous partage une note de la rédaction. La revue Spirit va publier sur plusieurs numéros le fruit des recherches et de l'expérience d'un frère spirit concernant la fin de vie. Cette étude a été faite dans une perspective neutre, à religieuse et visant un public non initié. Elle est basée sur des faits et des témoignages qui viennent en appui au paradigme spiritualiste. Nous ajouterons quelques notes montrant les liens étroits avec la philosophie spirit. L'auteur et le comité de rédaction vous encourage à nous faire part de vos commentaires, de vos témoignages ou des faits que vous avez pu relever afin d'enrichir cette étude. Pour nous aider et soutenir nos efforts, abonnez-vous à la revue sur www.assocardec.fr. À noter dans vos agendas, le 26e symposium Spirit pour la francophonie ouvre ses portes du samedi 23 mai à 9h jusqu'au 24 mai 2026 à 15h. Le thème proposé cette année est le spiritisme à l'épreuve de la science. Cela se passe comme chaque année depuis 26 ans au château de Wégimont, 76 chaussée de Wégimont, 4630 Soumagne. C'est à 20 km de Liège. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 mai 2026 sur le site spirit.be. Charles Kampf vous propose sur YouTube, sur la chaîne Regard Spirit, des vidéos de ses cours, des conférences, des rencontres spirit. Le FSF Allan Kardec vous propose sur YouTube des vidéos, des conférences. N'hésitez pas, soyez curieux, cherchez, trouvez et comprenez. Ici se termine notre émission. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur info@lmsf.org. Je vous souhaite beaucoup d'amour et osez semer les bonnes graines pour que votre récolte soit à la hauteur de votre semence.